Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
RTL 7h43, elle a été la toute première profileuse, même si elle n'aime pas le terme, de la gendarmerie et dirige aujourd'hui la DIAN, la division des affaires non élucidées. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin le lieutenant-colonel Marie-Laure Brunel-Dupin.
Alors la DIAN, on en parle très souvent, lieutenant-colonel, ici même, hein, quand on évoque les fameux cold case, ces affaires non élucidées. On va le dire tout de suite, ça n'est pas que ça, la DIAN, expliquez-nous.
Oui, on entend souvent la DIAN comme la division des cold cases, et en fait, la DIAN, c'est la division des affaires non élucidées de 2h à 30 ans. On est capable d'intervenir sur des affaires actuelles et contemporaines, des affaires anciennes, inactives, anciennes et actives. Enfin, notre champ, il est très large, mais on n'est pas la division des cold cases, on a beaucoup d'autres affaires chaudes.
Et au sein de cette division, il y a 23 personnes qui travaillent, dont vous, des enquêteurs, j'allais dire, classique, même si leur travail n'est pas classique puisqu'il s'agit de reconstituer notamment des parcours de criminels ou autres. Et puis, il y a ces fameux profilers, les analystes comportementaux, c'est comme ça que vous souhaitez qu'on les appelle et c'est comme ça qu'on doit les appeler. Qu'est-ce que c'est que ce métier ?
Alors, c'est effectivement l'analyse comportementale, c'est le nom qu'on a trouvé parce qu'il est révélateur du métier. On analyse des scènes de crime pour comprendre quelle est la personnalité de l'auteur capable potentiellement d'avoir commis ce crime. C'est-à-dire, ce n'est pas ranger des suspects, comme on le voit dans les séries, c'est partir de la scène de crime, de ses éléments objectifs, pour arriver à en dresser le profil de l'auteur, son profil psychologique, et pour orienter les investigations et comprendre ce qui s'est passé sur cette scène de crime, c'est déjà commencer à le résoudre un peu. Donc ça oriente les enquêteurs, ça leur donne des suggestions d'investigation, et quand ils ont des suspects, ça permet de conforter, de regarder ces suspects, nous on appelle ça à travers le filtre du profil, pour voir s'il y en a qui matchent ou pas avec le profil.
Et comment, à partir d'une scène de crime, on peut déterminer un profil psychologique, ça paraît...
Alors c'est à partir de ces éléments objectifs, donc c'est-à-dire la criminalistique, le mode opératoire, mais aussi le contexte et bien sûr toute la victimologie, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été enlevé ou ajouté.
Par exemple, si on prend l'exemple d'un mégot de cigarette qui est retrouvé sur une scène de crime, l'enquêteur classique, il va chercher une trace ADN pour essayer de faire matcher justement avec quelqu'un. Vous, qu'est-ce que vous regardez sur ce mégot ?
Alors, en fonction de des circonstances, parce que ce n'est pas un élément qui a une signification, en fonction des circonstances, un mégot de cigarette sur une scène d'enlèvement où on sait par un témoin que c'est l'auteur qui l'a enlevé, ce qui va nous intéresser, ça peut être s'il y en a un, s'il y en a plusieurs, combien de temps, savoir s'il a fumé longtemps avant d'enlever cette personne.
La façon dont la cigarette a été fumée aussi.
Alors, pas forcément, parce que là, après, ça va faire mentaliste et on va se retrouver dans une autre série télé. Mais de savoir, s'il a pris son temps ou si c'est très impulsif.
Vous disiez, la DIAN ne traite pas que des vieilles affaires, elle traite des affaires qu'elles aient 30 ans ou quelques heures. Ça veut dire que, par exemple, vous avez pu être sollicité sur la disparition du petit Émile ?
Ça veut dire qu'on travaille sur les affaires complexes d'atteinte aux personnes et sur les affaires actuelles, on ne peut pas en parler.
Vous ne pouvez pas nous confirmer si vous travaillez ou pas sur cette affaire ou si vous y avez travaillé, mais sur une affaire comme celle-ci, une disparition d'enfant, concrètement, quel peut être votre rôle ?
Alors, sur des disparitions, ce qui est notre plus-value, c'est finalement d'utiliser nos 20 ans d'expérience sur ces affaires non élucidées pour pas risquer de faire avec les affaires actuelles les cold cases de demain. Donc, le principe, c'est d'apporter notre expérience. On appelle ça, dans le jargon militaire, la fonction rétex. C'est prendre en compte tout ce qui n'a pas marché sur des affaires qui, aujourd'hui, sont non élucidées pour pouvoir donner des conseils aux enquêteurs de précautions à prendre, pas des précautions techniques, mais plutôt en termes d'audition, en termes de temps et d'espace. Une scène d'enlèvement, c'est déjà une scène.
C'est pas une scène de crime, mais c'est une scène.
C'est déjà une scène, il y a déjà des informations. Des choses à comprendre.
Quelles informations sur une scène de disparition ?
Alors, ça peut être les moyens d'accès de cette scène, donc moyens d'entrée, moyens de partir, les vis-à-vis. La scène est déjà une scène de prise de risque ou pas, si c'est un enlèvement. Donc, est-ce que c'est un endroit tranquille, sur un parking de supermarché ou dans un champ, on est sur une scène où on a une scène d'enlèvement ou de disparition, et c'est déjà pas le même contexte. Donc, on a comme ça plein de choses à analyser pour pouvoir aider les enquêteurs.
Les analystes comportementaux, vous le disiez, peuvent intervenir sur une scène de crime. Ils peuvent aussi être appelés une fois qu'un suspect est interpellé. C'est ce qui s'est passé par exemple avec Jacques Ranson, qu'on a appelé le tueur de la gare de Perpignan, condamné, je le rappelle, à la réclusion criminelle à perpétuité pour plusieurs meurtres et viols. C'est vous, en tout cas, c'est cette méthode qui a permis d'obtenir ces aveux ?
Alors, c'est un travail d'équipe, hein. J'aime
oui,
pas.
C'est pas vous.
Non, moi, j'ai résolu aucune affaire et vous pouvez revenir dans 10 ans, ce sera toujours zéro. En revanche, j'ai participé à beaucoup d'affaires qui ont été élucidées. Donc, ça, c'est ça la particularité. Effectivement, l'analyse comportementale, ça démarre de la scène de crime. Quand on a bien compris cette scène, on investigue mieux. Et quand on a bien compris et la scène et le suspect qui va être en garde à vue, on pose mieux les questions. Donc, on s'est préparé pour Jacques Ranson avec toute l'équipe de la section de recherche d'Amiens. Parce qu'il faut savoir que la Diane, c'est pas elle qui reprend toutes les affaires toute seule. C'est bien une association de toutes les sections de recherche de France.
Vous êtes dépêchée sur place aux côtés des enquêteurs,
c'est ça, c'est
selon les
besoins.
C'est une
unité d'appui. Et donc, on est venu au profit de cette section de recherche pour préparer cette garde à vue et pour les assister en direct, pour essayer de dégager la vérité, hein, puisque ça, il ne s'agit pas de faire avouer les innocents, mais bien d'obtenir la vérité.
Mais comment on fait concrètement ? On observe les faits, les gestes, on travaille sur son passé
On travaille sur son passé, sur la façon dont il a été interrogé, sur la façon dont il s'est comporté sur ses précédentes gardes à vue. On travaille sur la scène, on travaille sur sa personnalité, si on a des informations sur sa personnalité, si on a des expertises, en l'occurrence pour Jacques Ranson, on en avait. Donc on s'est préparé à cette personnalité pour bien orienter les questions et pour faciliter le dialogue et la conversation avec lui. L'idée, c'est pas comme dans les films où on est la lampe braquée sur lui et comme on dit dans le jargon, on lui parle très près de la bouche pour l'intimider. On n'est pas sur ça, on n'est pas non plus en train de prendre le thé, on est sur une garde à vue neutre, propre, carrée, qui respecte la personne.
Sauf qu'il faut trouver le point de détail pour faire parler.
C'est ça, il faut le trouver, et il faut trouver quelle est la faille psychologique, si elle existe, pour qu'il ait envie de nous dire la vérité, et en l'occurrence, pour Jacques Ranson, ce qu'il avait fait réellement. Et c'est ce qu'il a fait à la 47e heure de garde à vue.
Lieutenant-colonel Marie-Laure Brunel-Dupin, vous avez, je le disais, été la première profileuse de la gendarmerie il y a 23 ans. C'est assez récent. Alors, je raconte juste l'histoire pour les auditeurs parce que je trouve que c'est incroyable. Vous êtes étudiante et puis vous écrivez au patron de la gendarmerie de l'époque en lui disant « Vous avez besoin de moi, mais vous ne le savez pas encore. » Ce qui est quand même stupéfiant. Il vous répond à votre lettre en disant « Venez me voir, ça se passe en plus un 24 décembre. » Bon, bref, c'est digne d'un film. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très récent finalement ces techniques-là au sein de la gendarmerie.
Ben, très récent, ça a 20 ans quand même.
Oui.
Aujourd'hui, on a rattrapé le retard par rapport aux autres.
On était très en retard.
Aux autres pays, mais on avait une vingtaine d'années de retard. Et 20 ans plus tard, on a rattrapé les 20 ans de départ.
Pour tous ceux que ça passionne, vous publiez ce livre, ça s'appelle « Serrer les dents », c'est aux éditions Black Lab. Alors, c'est un roman, hein, c'est l'histoire de la gendarme Mina Lacan et de son équipe d'analystes comportementaux. Livre que vous avez coécrit avec Valérie Perronnet. C'est vous, Mina Lacan, ou pas ?
Non, c'est pas moi, mais elle est très inspirée de moi et de certaines de mes particularités.
Il y a un moment au début du livre où vous racontez cette scène où les autres gendarmes ne comprennent pas tout à fait votre métier. Ils imaginent un truc un peu ésotérique, voire carrément magique, genre super intuition de la mort qui va faire apparaître le coupable comme par enchantement. Ça vous est arrivé qu'on vous prenne comme ça pour magicienne, sorcière
On nous a pris pour des médiums, oui. Mais il y avait même une époque où on disait, moi j'y crois à l'analyse comportementale ou j'y crois pas, et on expliquait que c'est pas une religion en fait, c'est un outil.
C'est scientifique.
On croit pas à un marteau, on l'utilise si on en a besoin pour enfoncer un clou. Donc si on a besoin de l'analyse comportementale pour comprendre un crime complexe, parce que ça s'applique pas à tous les homicides de France, heureusement, mais on l'utilise et puis comme un outil. Donc ça a été un vrai combat pendant quelques années et aujourd'hui c'est plus un sujet.
Et c'est pour ça que vous vouliez au départ intégrer la gendarmerie pour pouvoir développer ça. Vous n'auriez pas pu le faire si vous n'étiez pas en bleu.
Oui, je pense que c'était une étape indispensable. C'est ce qu'on raconte aussi dans les romans, de pouvoir parler à un enquêteur en étant déjà habillé comme lui et pouvoir s'associer à lui dans l'enquête, au plus près de l'enquête. Et pour ça, il fallait devenir gendarme. Et choix qui me semblait évident pour la pratique et qui aujourd'hui est parfaitement dans mon ADN. peine.
Un grand merci. En tout cas, alors je rappelle ces deux livres, Serrer les dents, coécrit avec Valérie Perronnet, qui est sorti il y a quelques jours. Et puis, il y avait le tome 1, Avant que ça commence, qui est sorti, je crois, en édition de poche il y a quelques jours. Bon, c'est pas tout à fait la réalité, mais alors on lit ça comme un vrai polar. Enfin, c'est assez fantastique. Et il y aura une suite, je crois.
Alors oui, c'est inspiré d'affaires réelles, ouais, qui sont maquillées et transformées. La partie carrière et gendarmerie est réelle. Et c'est prévu pour ne pas être des épisodes, mais raconter une carrière complète. Et donc aujourd'hui, j'ai 24 ans donc de carrière. je précise. Et donc,
il y aura
normalement une suite. Un grand...